Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius.
La notoriété, c'est lorsqu'on remarque votre présence. La célébrité, c'est lorsqu'on note votre absence. Volinsky. Ah, ça envoie, hein, de suite, ça met en place, ça met les choses en place. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. Je suis content, vous avez certainement passé une belle journée et on est ravis de commencer cette soirée avec vous sur Sud Radio, et avec cette jolie tablée qui est ici et cet aphorisme qui fera peut-être réagir dans quelques secondes notre invité Christophe Willem. Bon. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Merci d'être là. Tu reviens. J'aime bien qu'à chaque fois que je commence en disant le retour,
Christophe. C'est ça.
Mais tu n'es jamais parti, Christophe, en fait.
Bah non, en fait, j'étais entre deux albums. Mais c'est vrai qu'on a quand même vu, on a vécu un peu une période bizarre. Donc ça a été un peu plus long.
Ouais. Qui a été vraiment difficile, presque en particulier pour toi. Hein. Tu l'as vécu assez mal, ce moment-là, parce que ça s'est enchaîné avec un album dont tu n'étais pas totalement satisfait.
Ouais.
Ça a été une grosse remise en question. Un truc qui t'a un peu déstabilisé, tout ça.
Ouais, mais c'est pour le coup, c'était pas si mal, en fait, tout ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, juste après l'album Rio, là, le précédent, en sortant de tournée, j'étais juste en train de déménager à ce moment-là. J'étais chez mes parents. Et là, il y a le confinement qui arrive. Donc, du coup, mise à l'arrêt forcée. Et donc, c'était pas si mal, en fait. Parce que je me suis un peu reconnecté à ma passion plutôt qu'à mon métier, donc ça a fait du bien.
Oui, et on le voit, parce que tu s'est assumé dans le clip qui accompagne ton titre PS, Post-Scriptum, je précise.
Oui, il faut bien le préciser. Alors, bien,
ça s'est fait. Bien, je t'aime, où le rôle de ta psy est incarné par elle-même, hein, par la vraie psy avec qui tu travailles, ou tu as déjà travaillé.
Non. Avec celle qu'on voit dans Double Jeu.
Oui, de Double Jeu, oui, pardon, c'est pas
parce
la perso.
Parce que ma vraie psy, pense que dans un clip, elle dirait « Non mais t'es gentil, mais on va éviter. »
Ça aurait pu, parce qu'il y a quand même tes parents, il y a ta famille qui intervient.
Oui, c'est vrai. T'aurais mais pu aller jusque-là. Mais pour beaucoup de gens, la psy de Double Jeu, elle m'a dit « Mais toute ma vie, ce rôle m'a poursuivi. » C'est-à-dire que les gens lui disaient dans la rue « Vous êtes vraiment la psy dans Double Jeu et tout, ça l'a vraiment marqué. »
C'est un peu comme Boudère et l'Orangina Sanguine.
C'est vrai. Alors ça, c'est une vanne de Romy Chelminski qui est là. Tiens, j'en profite pour faire le tour de table. Romy Chelminski est là. Salut mon Romy, merci d'être là.
Bonsoir Yvan, merci.
Comme régulièrement dans ce loft, Christophe Willem, vous vous connaissez tous les deux. Il est guitariste, Romy, il joue avec plein de gens.
Mais j'ai joué avec Christophe aussi, je cherche pas, j'ai joué avec tous.
Il joue avec tout le monde, en fait.
Il joue avec tout le monde, ouais.
Mais je te le dis.
C'est vrai.
Si, on a joué au tout début, je crois que c'était, hein, sur le premier album.
Et donc il est guitariste, Romy.
Il venait de sortir, il était tout frais sorti de la Nouvelle Star et on faisait des petites promos, on s'est bien marré.
Ouais. Et avec toi, en même temps, c'est difficile de pas se marrer. Quand
mais j'étais sage à l'époque, hein. Je faisais pas trop mon foufou.
Il vient régulièrement ici, Romy Chelminski, pour prendre la guitare et avoir des chansons totalement décalées qui quelquefois sont extrêmement rigolotes et d'autres fois
complètement pourries.
Des fois pas du tout. Ça c'est assez fait.
Il va nous la livrer tout à l'heure, la chanson qu'il a écrite spécialement pour toi, Christophe Willem. Et également un artiste qui sort son album qui s'appelle Guillaume Farley. L'album ça s'appelle Blindé, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler Bob Dylan, Alphonse de Lamartine ou même Karen Cheryl. Guillaume Farley.
Yes,
salut Guillaume.
Salut Yvan, ça va?
Oui, très bien. Je suis content de t'avoir.
Moi aussi, ravi.
On caractérise ton univers, je l'ai lu dans ta bio, en étant une espèce de croisement. Donc en fait, on dit clairement sur ta bio le rejeton d'Al Jarreau et de Véronique Sanson qui aurait partousé avec Jacques Brel.
Oh,
ah, c'est ce que j'ai lu.
Mais oui, c'est Jean-Paul Tronic qui a écrit ma bio sur mon site. Je vous dis,
c'est pas mal.
C'est velu.
C'est assez parlant.
Mais velu.
Mais c'est velu, mon cher Jean-Paul Tronic. Si vous avez l'occasion d'écouter Jean-Paul Tronic, allez sur Bandcamp. L'album s'appelle Jean-Paul Tronic Plays a Lose et c'est complètement génial. C'est des paroles complètement débiles sur de la bossa nova très élégante. Il est super génial.
Alors,
merci,
tu dis que c'est velu, effectivement, mais c'est aussi voulu, si je puis dire, parce que ça caractérise bien ta démarche artistique, cette espèce de manière de choquer un petit peu, d'être là où on ne t'attend pas, d'avoir ce côté très romantique, en même temps faussement loser, en fait, voilà, blessé de la vie, en même temps très enthousiaste, plein de nuances comme ça.
Mais gris. Oui, exactement. Non, ce qu'il y a, il y a deux trucs à conjuguer qui sont difficiles, c'est l'humour et le premier degré, c'est-à-dire de se tourner en dérision et en même temps de chanter des chansons d'amour, bien premier degré.
Ouais.
Donc ça, déjà, enfin, mélanger ça, c'est dur. Et puis aussi le fait d'aimer la pop, la chanson française et le funk, et de faire essayer de faire cohabiter ça.
Oui, ça aussi, c'est
difficile. Ça, c'est pas évident.
On va en parler d'ailleurs, parce que Christophe Willem, évidemment que ça te concerne aussi, ce questionnement-là. Faire cohabiter toutes ces influences, tout ce qu'on aime, en fait.
Bah, le plus gros challenge, c'est de faire sonner des fois en français. Pour moi, je trouve que c'est ça le plus compliqué de tout.
Essaye l'allemand pour voir, tu vas voir.
Mais tu sais que... Non, mais bizarrement, j'ai déjà entendu certains trucs en allemand, c'est pas si pire que... Tu vois, je pensais que c'était plus violent.
Rammstein qui fait de la funk.
Mais c'est vrai que c'est ça le problème, souvent. D'arriver à faire groover du français, c'est pas facile.
C'est pas facile, c'est complètement faisable. On a vu avec Nougaro et plein de gens, mais traînaient, etc. Traînaient sa swing l'enfer. Mais il y a des gars qui savaient le faire. Mais après, c'est à voir... quels sont nos sens des priorités, quoi.
Ouais, exactement. On va écouter ce que vous avez fait, vous, dans la façon d'utiliser le français, notamment avec ce titre écrit par Slimane pour Christophe Willem. Ça s'appelle PS Post-Scriptum. Je tout précise, je t'aime.
Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie, à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sème, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime.
Mais je le dis en anglais. P.S.
I love you.
Post-scriptum. En anglais, ça marche aussi. Non, post-scriptum n'existe pas en anglais.
C'est
du latin.
Je crois que c'est
du latin. C'est universel.
C'est universel.
Mais c'était en anglais, toi, non?
Mes parents sont américains.
Ah, voilà.
Ah, ouais, il est une grande culture.
Je me souvenais quand même de ça. Ça m'avait marqué. Tu vois, mais c'est vrai.
Tu vois?
Merci d'être avec nous. Vous qui nous rejoignez sur Sud Radio, le nouveau single Christophe Willem, écrit par Slimane, qui peut se lire de plein de manières différentes, en fait, selon qu'on imagine que tu t'adresses à ton public, à ton conjoint, à ta conjointe ou à quelqu'un, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mystère comme ça, une chanson un peu universelle où chacun prend ce qu'il veut.
Bah après, vraiment l'origine même du titre, c'était vraiment cette discussion avec Slimane par rapport à ce qu'on expliquait, la pandémie, toutes ces remises en question que j'avais autour de mon métier où j'étais un peu lost, hein, faut le dire, et donc c'était vraiment l'idée de s'adresser au public. Avant toute chose, c'était vraiment ça. Et on nous disait souvent que c'était peut-être un peu trop compliqué parce qu'on ne comprenait pas exactement à qui ça se destinait. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Je trouve que ce qui fait qu'un titre rentre dans l'intimité du public, c'est que chacun y met ce qu'il veut derrière. Pour le coup, soit on y voit la lecture première, soit on y voit une histoire d'amour classique. Ouais, moi, je sais la vraie histoire et c'est vraiment destiné au public. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sens possibles.
Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est une chanson de Goldman aussi qui a été comme ça difficile à préciser, qui s'appelle « Puisque tu pars ». sûr. Et dans Plus que tu parles, les gens se sont imaginés que c'était la perte d'un être cher. Et en fait, c'est, selon ce qu'il explique lui, la fin du concert où, en fait, il part de la scène, il sort de la scène. Et c'est, une chanson d'adieu au public pour la soirée du concert. C'est intéressant. Et ça veut dire aussi que chacun a sa manière d'écrire des chansons et chacun a sa vision de la chanson. Certains aiment la narration, d'écrire des histoires, et d'autres, on en parlait juste là pendant la chanson, les gimmicks. C'est-à-dire qu'on est plus sur la musique, en fait, ou plus sur le sens. C'est-à-dire sur le gimmick, c'est-à-dire la voix vient comme ça être un instrument de musique, ou bien sur ce qu'elle raconte. Toi, t'es plutôt où, Christophe Willem ?
Moi, je suis plus attaché à la musicalité des choses. Donc, c'est vrai que je vais... dans Pêche, je t'aime, par exemple, c'est un texte qui est assez léger. Il y a tous les gimmicks qui, moi, font que d'un seul coup, cette chanson, je peux la retenir. Et en même temps, il y a une narration. Mais le texte, la chanson ne tourne pas autour de la narration. C'est un mélange entre la ligne de basse, entre le texte et le gimmick. C'est un peu le mélange.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, j'ouvrais l'émission en disant que la notoriété, lorsqu'on remarque votre présence, la célébrité, lorsqu'on note votre absence, Volensky, et ça parle beaucoup, ça. Toi, ton rapport à la notoriété, tu parlais de cette époque de pandémie difficile, mais la notoriété aussi est une autre difficulté pour toi, ou elle l'a été en tout cas. Tu en parles en disant que c'est affreusement violent, la notoriété.
Oui, enfin, c'est violent quand ça vous tombe d'un coup. Moi, c'est vrai que quand je suis sorti de l'année... toi, t'as bien connu la période avec moi, mais quand je suis sorti de l'émission...
Romy, tu t'adresses à Romy.
Oui, non, mais c'est vrai, quand je suis sorti de l'émission, du jour au lendemain, c'est vrai que... tout le monde, enfin c'était vraiment tout le monde dans la rue, il n'y avait pas une personne qui...
C'était la reine d'Angleterre.
Donc, non mais c'était, quand on est en déplacement et tout, c'était assez hallucinant. Et c'est vrai que moi...
Qu'est-ce qui se passait quand tu étais hallucinant quand tu allais en déplacement
on allait faire une radio justement en province ou autre, il y avait vraiment un attroupement de gens. Enfin moi c'était un truc que j'avais jamais connu, si tu veux. Et en plus j'ai jamais été fan.
Ouais.
Donc si tu veux... Je me suis jamais retrouvé moi dans la situation d'attendre un artiste ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien la musique de quelqu'un, je le vois en concert, mais bon, ça s'arrête là, tu vois. Donc, je comprenais pas en fait ce fanatisme autour de quelqu'un, tu vois.
Je te coupais, tu as dit ma sœur, tu allais parler de ta sœur.
Oui, j'ai parce que c'est ma sœur en fait qui m'a inscrit à l'émission. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait l'émission. D'ailleurs, j'ai forcé ma sœur et son mari à faire le casting en me disant, mais je vais pas faire une journée entière dans une file d'attente d'un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, ils ont vraiment fait le casting.
Ah ouais, tellement ils croyaient, ils étaient persuadés que voilà, il fallait qu'ils le fassent, quoi.
Ah, mais eux, c'était une obligation que je le fasse. Et moi, c'était hors de question. Je me serais jamais inscrit, moi, dans cette émission.
Ouais, ouais.
Donc, si tu veux, tu vois, je veux dire par là que j'ai jamais eu l'envie coûte que coûte. Tu vois, il y a des gens qui veulent la fame. Tu vois, tu le vois maintenant sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les machins. Il y en a, leur objectif dans la vie, c'est être connu. Moi, ça n'a jamais été mon objectif. Mon objectif, c'était je fais de la musique, ça m'amuse. Et puis après, je me retrouve dans cette émission et puis je gagne l'émission. Donc ça devient mon métier, justement.
Oui, c'est ça.
Mais le risque, entre guillemets, c'est que quand ça devient ton métier, c'est que le métier prenne plus de place que la passion. Et à un moment, c'est ça qui est important, de bien garder l'équilibre des deux.
Et comment tu l'as géré alors, comment tu les gères, ces moments? Parce que c'est pas simple. On parlait de psy tout à l'heure, etc. Mais ça veut dire que t'es constamment en train d'essayer comme ça de faire face à tout ça. C'est une lutte pour toi, constante?
Non,
ça,
au début, c'était difficile. Après, au tout début, j'habitais dans Paris, parce qu'à la base, je viens du 95.
9-5.
Ouais, c'est ça. Mais j'y suis retourné. Hein. Mais au début, j'étais dans Paris et en fait, j'ai pas du tout apprécié. C'est-à-dire que j'ai pas habité dans Paris au moment où ça pouvait être cool. Moi, j'ai jamais été dans une terrasse d'un café ou un truc dans le genre parce que les 2-3 premières années, c'était tellement un truc hallucinant que, si tu veux, c'était un peu une prison en fait d'habiter pour moi dans une ville. Subissais la ville plutôt que d'apprécier tout ce qu'elle peut amener en fait. Et donc, je suis retourné habiter en banlieue. Donc, dans le 95. Et quand même, quand je suis retourné là-bas, à un moment, quand c'est les valeurs refuges dans lesquelles j'ai grandi. Donc, c'est là où je me sens bien. Et donc, pour moi, maintenant, Paris et tout, c'est le lieu où je vais travailler. Et quand je suis chez moi, je suis dans une espèce de bulle où, si tu veux, je vais... boulangerie et tout, c'est un non-événement de voir ma tronche. Les gens sont saoulés, ils se disent c'est l'autre.
Parce
que j'ai tellement grandi là-bas, pour eux, c'est un non-événement. Et j'aime bien être un non-événement.
Pas mal. T'as trouvé cette façon de gérer tout ça, en fait. Et ça, c'est important, en fait, pour toi, bien sûr.
C'est l'équilibre, quoi.
Qu'est-ce que ça t'a amené, tout ça, Christophe Willem, finalement au départ, on le lit partout. T'es un garçon très timide, introverti, qui rasait un peu les murs quand il sortait dans la rue. Et puis tout d'un coup, ce truc, ce projecteur qui se braque sur toi. Et aujourd'hui, avec le recul, tu penses que ça t'a permis quoi, de dépasser quoi, tout ça?
Après, je vais être très cash. Hein. Je veux dire, le premier truc que ça t'amène, c'est le confort de vivre convenablement et confortablement. Enfin, faut être très honnête. Tu vois, il y a... je vais pas être mytho. Je veux dire, quand à un moment tu gagnes une émission comme ça et que tu es catapulté dans le business de la musique, bah ça te permet de vivre de ta passion et d'en vivre très bien. Il y a énormément de gens qui vivent de leur passion, mais avec beaucoup de difficultés. Donc moi, ça m'a permis...
Ouais, un confort de vie.
Bah, en tout cas, d'avoir tout ce paramètre-là complètement sécurisé. Donc c'est quand même une chance incroyable. Ouais, ça, c'est le premier truc.
Et psychologiquement, personnellement, de point de vue du développement personnel, alors, si je puis dire, ça a changé quoi ?
Bah, si tu veux, il y a un vrai faux ami, c'est que le succès... avec le succès, on pense qu'on a un peu guéri tous les démons ou les fantômes qu'on peut avoir ou le manque de confiance qu'on peut avoir en nous. Bah alors, c'est très bien les premières années, mais dès que la lumière elle décroît un peu, en fait, tu repars d'encore plus bas que ce que tu étais parti. Donc, il ne faut pas confondre justement le fait d'être aimé ou apprécié d'un public ou des médias. Hein. Faut pas confondre ça avec l'amour propre en pensant que ça fait qu'on s'accepte et qu'on s'aime davantage. Parce que quand ces gens sont moins là, bah d'un seul coup, tu retombes encore plus bas. Donc moi, c'était ça un peu qu'il a fallu...
Valérie Lemercier, t'avais écrit une chanson incroyable à ce sujet-là. Et d'ailleurs, rappelle-toi, on avait arpenté les rues de Paris en faisant les promos de ce titre-là.
Je me rappelle très bien.
Qui parlait de ça, en fait.
Ce titre s'appelait « Produit de l'année ».
Oui,
écrit par Valérie Lemercier, c'était
élu produit de l'année.
Élu produit de l'année.
Le texte était mortel.
Et qui parlait de ça, en fait.
Oui, qui parlait de ça.
Parce que ça a toujours suivi, en fait, ce dont tu parles. Guillaume Farley, moi je pense que maintenant là on pourrait t'entendre sur un extrait live de ton album, ton
avec
premier
joie,
album qui s'appelle Blindé.
Bravo à Christophe, parce que ce qu'il dit c'est très sensé et oui. Souvent les gens pensent que le succès ça va nous projeter dans quelque chose de merveilleux et bien sûr sans nos angoisses, mais c'est très intéressant d'entendre ça parce que c'est lucide et le succès est une épreuve peut-être encore plus difficile que l'échec.
Oui, c'est ça. Et Christophe, d'ailleurs, Willem, on est en plein dans la thématique, finalement, dans ce single, hein, finalement. C'est-à-dire la volonté de revenir aux choses essentielles, très personnelles.
Oui,
Et maintenant, d'être un nouveau une nouvelle personne. On a l'impression que tu es différent.
En fait, si tu veux, l'envie, c'est d'enlever un peu le vernis, tu vois, cette couche que tu peux avoir sur toi, des fois, justement, quand le métier est plus présent que la passion, et de dire, non, à un moment, on va un peu gratter tout ça. Revenir à la passion première et avoir justement quelque chose de plus direct. Voilà. Je pense qu'avec le temps et la notoriété, des fois, on a tendance à lisser le propos ou lisser les choses qu'on veut dire parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de comment ça va être perçu. Et au bout d'un moment, je pense que les gens... Ce qui suscite l'admiration, je pense, c'est la liberté totale. Et donc, il faut retrouver cette liberté pour pouvoir aussi, des fois, être la voix de ceux qui n'en ont pas, en fait. C'est ça qui est important.
Et tu analyses ça de parfaitement bien. Et moi, qui ne t'avais pas vu depuis longtemps, je trouve que tu as gagné, si je puis me permettre, justement, en forme de sagesse, comme ça, de regard, de distance et de sérénité, quand même. Hein, je te trouve assez serein.
Écoute, ben merci. Je prends ça pour un compliment, tu vois.
Non, mais tu peux. Donc je me dis que tout ce que tu as traversé, tout ton parcours, a contribué à cette sérénité.
J'en ai connu des faillots, mais des comme toi.
Non, mais c'est vrai. Non, je
non, mais c'est vraiment fait du bien. Si tu veux. Je pense qu'à un moment, tu vois, tu disais le succès, c'est compliqué. Mais je pense que l'échec fait du bien. Non, mais sans déconner. C'est-à-dire qu'un échec,
ça rééquilibre
beaucoup les choses, en fait. Donc des fois, ça fait du bien aussi. En tout cas, de vivre un truc comme un échec, ça fait
du
bien.
Tu diras ça à Valérie Pécresse.
Il y en a beaucoup à dire. Hein.
Si tu peux faire un chèque, on les prend ici. Guillaume Farley, tu vas nous offrir quoi comme titre en live, extrait de ton album Blindé?
C'est un extrait de mon album Blindé. Et ça s'appelle Ma Perspective.
On t'écoute. On pratique l'applaudissement de confiance.
Ah, voilà.
En live, dans le loft, Guillaume Farley.
J'ai la moustache épaisse, comme celle des anciens flics. Je touche pas le levier de vitesse. C'est une automatique. Le coude à la fenêtre. Soudain je t'aperçois. Je soulève mes lunettes. Je ris de je ne sais quoi. Toi, moi, nous, ce sera tout. Passons à la consommation. Juste un café et l'addiction. Quand, comment, où, ça on s'en fout. Il y a dans notre refrain un saxophone californien. Et la chemise ouverte sur mon torse velu. De quoi mettre en alerte la plage de Malibu. Je sais pertinemment que tu ne t'appelles pas Cindy. Moi je vis chez mes parents, et puis j'ai pas le permis. Toi, moi, ce sera tout. Je sais que c'est toi ma perspective, rien qu'à l'odeur de ta lessive. Quand, comment, où, ici et partout, il y a dans notre refrain un magnifique solo de rien.
C'est pour toi, bébé. Tu vois toutes ces étoiles ? Elles brillent.
Tu ne trouves pas qu'il se passe quelque chose ?
Là, toi, moi, bon, tous les deux, quoi. Tu vois ?
J'espère que t'aimes les chansons à l'eau de rose, parce que je vois revenir au loin le saxophone californien.
Tu veux boire un dernier drink?
Ma perspective, Guillaume Farley. C'est magnifique. J'ai la chemise ouverte sur mon torse velu, de quoi mettre en alerte la plage de Malibu. Ça, c'est une belle punchline, dis donc. Ouais, ouais. Et ce qui est très intéressant, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité que l'on devine à travers cette façon d'aborder les choses, avec beaucoup d'autodérision et de précision en même temps. Donc il y a beaucoup d'intentions qui sont mélangées dans tout ce que tu fais et qui suscitent la curiosité et l'écoute, en fait, simple, parce qu'on a envie de rentrer dans cet univers et de comprendre ce qui s'y passe, et plein de choses très compliquées et très précises, oui, je le disais, musicalement.
Bravo, merci, Guillaume, camarade. Enfin, merci beaucoup.
Mais je me permets, hein, si jamais tu as l'occasion d'aller voir Guillaume sur scène. Moi, j'ai joué aussi avec Guillaume, parce que j'ai joué avec tout le monde, finalement.
Avec tout le monde.
Guillaume, oui, c'est ça. Les concerts de Guillaume, c'est une procession. C'est-à-dire, c'est un peu une messe. Les gens viennent, ils sont silencieux. Quand on jouait au China Club, ils étaient en tailleur. Ouais. Le truc était plein. Et on montait sur scène, il y avait un silence de cathédrale. Ils se mettaient à jouer, les gens sont ultra attentifs à chaque mot, à chaque truc, c'est dingo, j'ai jamais vécu ça.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
En même temps, t'es tellement dans une narration, on est suspendu à l'histoire, en fait. D'accord, c'est ça, en fait.
Ouais. On a envie que ça déroule et de comprendre cet univers de ce mec quand même bien torturé, suffisamment en tout cas, de manière acceptable.
Moi, j'aime le mélange entre faire de la scène, briller, être dans la lumière et être, tu vois, faire tout ce qu'il faut pour être beau, et avoir des chansons dans lesquelles tu te montres faible et minable et perdu. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, faire une rencontre. Parce qu'en fait, c'est bien beau de faire des tubes et tout ça, mais s'il n'y a pas la rencontre avec l'animal, c'est mort.
C'est-à-dire,
ce que je veux. Même si le gars est timide et même si le gars n'est pas un entertainer de dingue, il y a une rencontre à faire. Oui. Et cette rencontre, quand elle a lieu, c'est magnifique. Et après, l'interprète en question, l'artiste en question, peut t'emmener sur des chemins que tu ne soupçonnes pas. C'est ça qui est important. Ouais. C'est que moi, aujourd'hui, j'écoute des mecs qui, stylistiquement, et font de la musique qui ne m'intéresse pas, en vrai. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, comment ils écrivent, et la rencontre que je fais en les écoutant, c'est ça qui m'intéresse. C'est les mecs qui vont faire tomber des verrous.
Alors, j'ai rencontré Michel Houellebecq. Curieusement, c'est pas le roi de la chenille. Hein. Voilà. Juste dire ça. Parfois, on ment pas sur la marchandise.
En tout cas, dans l'album blindé de Guillaume Farley, il y a moi, ça va.
Moi, ça va bien. Sinon, moi, ça va. Tant d'efforts pour que tout soit beau, je te préfère avec tes défauts.
Dans l'album blindé de Guillaume Farley, il y a Pour toujours un forever.
En cloque, comme une pendule.
C'est Bijou.
Si, je vois.
Il y a également le fantôme.
Pleure en éclat, ne se voit pas.
Marlon.
Alors je n'ai rien vu.
Il y a une peau nouvelle.
Je veux pas de rencontre.
Et dans l'album Blindé de Guillaume Farley, il y a Blindé.
Blindé, mon pauvre ami, béton armé, c'est ça ta vie.
Il s'appelle Guillaume Farley, l'album s'appelle Blindé. Fais-moi cette voix magnifique, très radiophonique, dans les graves comme ça. Où tu.
Bonsoir. Et si tu fais le 42 000, tu peux gagner des pins et des t-shirts à mon effigie.
Mais là, quand même, ça, technique tu... de voix de ouf.
Christophe Willem, oui.
Tu vois, là, je t'écoutais tout à l'heure en live, parce que je suis très sensible aux voix. Et je t'écoutais, je trouve que t'as vraiment une maîtrise. Parce que tu fais genre, là,
ouais,
comme ça.
Oui, exactement,
mais,
il fait
tu
genre.
Vois, ouais. Tu fais genre, mais c'est très précis ce que tu fais vocalement. Tu vois, ce que tu passes d'une voix à l'autre avec beaucoup de précision, et là, tu étais en live et tout, c'est hyper juste à chaque fois. Enfin, j'étais impressionné.
Merci, Christophe.
Cette voix, justement, Christophe, tu la travailles toujours beaucoup, toi?
Pas du tout.
Tu l'as jamais travaillée,
en fait? C'est terrible. Si, au tout début. Mais avant, je fumais et tout. Moi, je me suis arrêtée quand même, à force, avec l'âge, tu vois. Non, mais c'est vrai, en plus. Mais non, je ne travaille pas du tout.
Et c'est comment t'expliques? Donc, tu as une technique innée, parce que tu as une précision. Enfin, je vais encore faire le failleux, je vais me faire engueuler par Romy. Mais tu as quand même une précision de voix digne d'un mec qui a beaucoup de technique, quand même. Aussi. Donc, elle vient d'où, cette technique?
Je te dis, plus jeune, j'ai pris des cours. Plus jeune, mais 14-15 ans, par là, tu vois, j'ai pris des cours de chant, comme on prend des cours de piano, en fait. Je trouvais ma voix comme un instrument, donc je trouvais ça drôle, mais après, j'ai jamais repris...
Mais c'est vrai que sur le plateau, il y a un niveau de chanteur entre les deux.
Non, mais on est d'accord.
T'aurais dû équilibrer et inviter, je sais pas, moi, tu vois, quelqu'un qui chante mal. Ça manque pas en France, hein, pourtant.
Hein. Tu veux pas chanter un truc, toi? Tu veux pas chanter un truc?
Mais bien sûr,
tu
chantes.
Jean-Michel Voitchiot.
Romy, il va nous chanter une chanson dans quelques secondes qu'il a écrite exprès pour toi. Exprès pour toi, Christophe Willem.
Non, mais avant, tu chantais vraiment.
Je faisais des chansons, bien sûr.
Ah, voilà, quand même, je suis tellement amnésique.
Non.
Et on passe la pause pub et on écoute la chanson qu'il te dédie, spécialement écrite pour Christophe Willem, par Romy Chelminski, pour rééquilibrer le niveau avec un chanteur qui chante moins bien.
Voilà.
À tout de suite.
Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius.
Le nouveau single de Christophe Willem qui est avec nous ce soir s'appelle PS, je t'aime. Allez voir donc le clip, on en parlait tout à l'heure.
T'aimes bien dire PS. Hein.
Ouais, moi je dis PS.
Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi, je vais le garder celui-là, je crois.
PS, ça fait moins PS, quoi, voilà.
Bah, c'est vrai. J'étais dégoûté que ça sorte à ce moment-là, d'ailleurs.
Mais oui, en fait. Parce que tout le monde t'a fait remarquer ça,
tout le monde
ça,
m'a
évidemment.
Saoulé avec ça. Et depuis le début, je disais à la maison 10, non mais je vous en supplie, avant ou après, mais pas à ce moment-là. Et là, on me sort la date de sortie. Mais j'étais un peu dégoûté, mais bon.
En même temps, vu le score du PS en question, si tu veux, t'as pas eu d'ombre. Hein.
Non,
je te souhaite un meilleur score qu'un Hidalgo.
Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'ombre.
Il
n'y
a pas eu d'ombre, t'es d'accord. Elle a fait gaffe, elle a été cool, Anne Hidalgo, pour toi.
Elle a fait exprès. La pauvre.
Romy Chelminski, qu'est-ce que tu nous offres alors pour Christophe Willem?
Alors, c'est un détournement d'une chanson de Christophe. C'est Christophe nous raconte l'actualité si sympathique du moment.
Ah, bah, qui est tellement adorable.
Voilà, je me suis mis dans tes pompes en tant que mec qui relate donc les actualités un peu. Enfin, le truc du moment.
D'accord. Et c'est sur une musique donc de Christophe, une
Bien sûr, vous allez la reconnaître tout de suite, il n'y a pas d'équivoque.
On lui fait l'applaudissement de confiance aussi quand même à Romy, dans le loft, sur ce radio. De défiance.
Alors, quand je serai grand, je serai pompiste et je gagnerai ma vie vachement bien. Ouais. En attendant le gaz de schiste, remplir ta caisse, ça coûte un rein. Sans plomb, sans plomb, faut un siphon. Ouais. Tout confessé, bien le métro. Je fais fumer ma carte bleue, je fais fumer ma carte bleue. C'est moins cher de se faire les pneus, c'est moins cher de se faire les pneus. Je fais fumer ma carte bleue, je fais fumer ma carte bleue. Je songe à vendre mes yeux, ouais. Quand je serai grand, je serai garagiste. Ça gagne bien plus que musicien, ouais. Et je prendrai des cours de défisc avec mes potes politiciens, diesel. Essence, bonne chance, la France, ouais. Et pour voter, j'irai à pied. Depuis l'Ukraine, on se saigne les veines pour un plein.
grâce à Poutine, on a plus un sur centime. Je fais fumer ma carte bleue, je fais fumer ma carte bleue. C'est moins cher de se faire les pneus, c'est moins cher de se faire les pneus. Je fais fumer ma carte bleue, je vais fumer ma carte bleue. Je vais voler des petits vieux, je vais voler des petits vieux. Avec la casserole, on s'envole. Du coup, je prendrai de la motule.
La chute est à l'image, ouais, voilà, du texte.
Il faut que ça rime pas à la fin. Oui. Il faut rompre avec la rime. Mais
redis-moi la phrase finale, la conclusion, donc.
Avec la casserole, on s'envole. Du coup, mettez-moi de la motule.
D'accord. Romy Jelinski, c'est du high level. Là.
Ah, il est.
C'est de la bonne.
Il remplace ça.
Mais écoute, on était bien là, je trouve, dans le thème.
Il y a quelque chose. Hein.
Bah,
quelque
chose. Hein. Je trouve qu'on était dans le thème là.
Ouais, je préférais parler du prix de l'essence plutôt que voilà. C'est le truc le moins pourri finalement à l'actualité.
Et en parlant d'écriture, Christophe Willem, sur cet album, tu as pas écrit en fait,
pas du
toi-même. Donc ça, c'est presque paradoxal, si je puis dire, de se dire que on se recentre un peu sur soi et peut-être on se met un peu à nu, un peu plus que d'habitude, et en même temps on n'est pas du tout auteur.
Alors en vrai, c'est ce que je me disais au début. Non mais c'est vrai. Au tout début, en fait, j'ai essayé d'écrire. L'album précédent, j'avais pas mal écrit, le précédent aussi. Et en fait, sur celui-là, tout ce que moi j'essayais d'écrire justement dans cette période-là de pandémie, je trouvais ça. Tous les sujets qui pouvaient être intéressants ou les choses que j'avais envie de raconter, je trouvais ça lisse. Et à la fin, j'avais tendance à toujours être dans un truc esthétiquement beau à entendre.
Ouais.
Mais je trouve que le propos, il était beaucoup moins fort que si c'était d'autres personnes qui le faisaient. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les personnes avec qui j'ai travaillé sur cet album proposaient un texte. Évidemment, on travaillait énormément ensemble, mais ils proposaient un texte. Et souvent, c'est moi qui disais « Non, mais là, si c'est ça que tu veux dire, va beaucoup plus loin, en fait, parce que là, c'est chiant. » Il faut que t'aies beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'en fait, je me détachais complètement du fait que c'est moi qui allais chanter la chanson.
Ouais, ouais.
Et quand j'arrivais après en studio, je dis « Ah, quand même !» Alors en fait, le mec, je vais demander d'écrire ça, en fait. C'est-à-dire que là, c'est quand même, on y va, quoi.
Là, on est plus loin.
Et en vrai, bah, si tu veux, je trouve que c'est beaucoup plus proche de ma manière de parler et tout ça. D'ailleurs, tu vois, mon entourage, justement, tout le monde était convaincu que j'avais écrit des textes moi-même en disant « Mais là, c'est toi qui as écrit, c'est ta manière de dire ça. » Enfin, on reconnaît ton écriture.
Ouais, 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 ouais.
Et donc, bah, bizarrement, sincèrement, le fait de ne pas avoir écrit, c'est un album qui est beaucoup moins lisse parce que je ne m'écoute pas ou je ne me regarde pas en train d'écrire, si tu veux. Donc d'un seul coup, je n'ai pas du tout de tabou ou de retenue parce que j'ai vraiment poussé les auteurs à aller vachement plus loin que ce que moi j'aurais fait. En fait,
tu as un côté directeur artistique, en fait, c'est presque schizophrénique. Tu es directeur artistique du chanteur que tu es, quoi.
Mais bah en fait, non, mais j'ai fait la prod exit de l'album pour le coup,
oui,
parce
voilà,
que pour moi c'était important. À partir du moment où j'ai dans cet album vraiment, j'ai ni composé ni écrit. Pour moi, c'était vital que ce soit moi qui cherche les équipes, que je travaille vraiment main dans la main avec eux, que je les pousse justement à aller encore plus loin. Et après, pareil, le réalisateur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Étienne Maillard, le pauvre. Je pense qu'il a envie de me tuer parce que je lui faisais faire des fois, on est à 22 versions d'un même titre.
Ouais, ouais. Pas mal.
Tu vois, quand même, c'est balèze quand même. Pareil pour le mix, pareil pour le mastering. Mais parce que j'ai une idée très précise. Et en fait, pour le coup, le fait que quand tu n'écris pas et que tu composes pas, en fait, tu as beaucoup plus de recul par rapport au produit, entre guillemets, et tu sais exactement ce que tu veux avoir parce que tu n'as aucun affect dedans, parce que ce n'est pas toi qui as écrit le titre. Donc c'est vachement plus évident.
Très vrai. Moi, c'est pile l'inverse. Pour la première fois, je me suis fait réaliser l'album où vraiment je ne suis pas impliqué dans la réalisation du dernier disque. C'est la première fois que ça m'arrive.
Alors, la réalisation, parlons pour les gens qui nous écoutent, hein, c'est une fois que les chansons sont écrites, il y a un intervenant qui va, comme dans un film, en fait, mettre en perspective, son, en sonorité, en mix aussi, en position dans l'espace, toutes ces chansons. Et c'est le rôle clé.
Aux États-Unis, on appelle ça un producteur.
Un producer.
Un producer, ouais.
Un producer, ouais, ouais. Absolument.
Bah, c'est ce qui donne tout le relief, voilà. En fait.
Et pour le choisir.
Une direction.
C'est super rude pour
le choisir. Difficile à prendre quand c'est tes chansons.
Ouais, ouais. Bah oui.
Moi, j'arrive avec des chansons qui sont parfois pas forcément conjugables entre elles.
Ouais, ouais.
Donc, le fait d'avoir un réal qui, lui, va avoir une vision globale, esthétique du truc, ça aide. Donc, au départ, je vais voir Édouard Coquard. Je lui dis, est-ce que t'es OK pour qu'on réalise ensemble? Et je viens poser des guitares-voix sur un clic. Donc, il ouvre des sessions. Le clic, c'est le métronome. Hein, je dis
ça pour lui. Oui, tu as raison.
Donc, sur un métronome, bing, je pose guitare-voix. Je repars, je reviens un mois après. Mais un mois après, il avait fait c'était tellement avancé. C'était comme si c'était mixé, tu vois, c'était fini. Oh, putain, ça m'a choqué, j'ai fait les 100 pas dans son salon. J'étais là, je me suis...
Mais quoi, il m'a dit ça dépossédé des titres
complètement, de mon truc de musicien. C'est-à-dire, pas du tout dépossédé de mon truc d'auteur-compositeur, parce qu'il allait vraiment dans mon sens. Il m'a tellement servi un beau truc complet Le premier truc qui m'a choqué, c'est de me dire que j'allais jouer quasi pas de basse, alors que je suis bassiste.
Oui, tu es bassiste, oui.
Je suis bassiste, et là,
on va en parler de la basse d'ailleurs.
Le fait de me dire que. Je me disais, mais c'est pas vrai, je vais pas jouer de basse sur mon disque. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux rejouer les basses. Je lui ai dit, mais je vais pas rejouer tes basses qui sont parfaites.
Ouais, 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 c'est
si
ça,
je fais ça, je suis un imbécile.
Mais c'est excitant, je trouve, d'avoir En fait, je trouve que c'est toujours très excitant d'avoir la relecture de quelque chose qu'on a pu faire par un autre artiste. Enfin, tu vois, je trouve ça très excitant,
ouais,
en fait.
Comme truc. Il m'a mis en costard, mais genre, c'est ma taille, quoi. Et tu regardes dans le
plan, c'est génial.
Putain, je suis bien fringué pour une fois.
Pour une fois,
c'est exactement, c'est exactement son rôle. C'est exactement son rôle. C'est
vachement
ça.
Bien. Moi,
je fais des chansons sur mesure. Le single a été écrit, PS Je t'aime, Christophe Willem, par Slimane, on le disait tout à l'heure. Et nous parlons également de l'album Blendé de Guillaume Farley. Et là, on joue, vous qui nous écoutez, vous jouez, vous avez l'habitude, c'est le quiz trompette, il faut reconnaître les chansons que j'évoque à la trompette sans les harmonies. C'est un quiz donc...
C'est nous les gens qui nous écoutent.
Vous ici autour de la table, et d'accord. Les gens jouent dans leur voiture.
C'est
obligé la trompette. Ouais, c'est obligé, sinon c'est dans mon contrat. C'est dans mon contrat. Ceci par exemple. Christophe, il a peur, je suis pas très loin de lui.
Viens dans la gueule à Christophe. Je prends un truc.
C'est pour ça qu'on met la vitre, c'est pas pour le Covid.
Évidemment.
Zazie.
Ah oui,
je suis un homme.
Oui,
ça.
Pas mal.
Pur morceau.
Ah, énorme ce titre.
Qu'est-ce que vous
On l'a plié l'affaire.
Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulièrement réussi ce titre?
Paroles, musique, réalisation.
Je suis tellement fan de Zazie, c'est dur d'être.
Zazie, c'est de l'orfèvrerie.
Grosse claque.
D'ailleurs, je me remets toujours pas de ce morceau.
Moi, c'est un des titres dont je me lasse pas du tout. Tu vois, double jeu, je me lasse, pour être très honnête, parce que c'est très gimmick, très. Voilà.
Je comprends.
Mais Jacadi, je me lasse pas du tout de chanter Jacadi.
Quel talent.
C'est ça, par exemple, Jacadi. Jacadi court, Jacadi vole. C'est bien de se remettre en mémoire.
Non, c'est Zazie, Jean-Pierre Pilot, Olivier Schultes.
Ouais, celui-là. Enfin, c'est sur mesure aussi. Hein.
Tu sais qu'elle l'a chanté d'ailleurs sur une de ses tournées. C'est très, très. Elle m'a dit, je crois que c'est une des seules fois où elle a rechanté un titre qu'elle avait écrit pour quelqu'un tellement elle avait.
Elle a mis dans le mille.
Ah ouais.
Total.
Alors ça, c'est un peu plus ancien, mais c'est lié à un de tes albums.
Ah.
Si tu vas à Rio.
Je donne le point à qui là, j'ai pas compris. C'est Christophe Willem.
Non, il l'a dit aussi en même temps.
Non, mais c'est pour te
Je suis tellement fan de Christophe Maé.
Dario Moreno, c'était. Pourquoi je me souviens plus pourquoi tu avais intitulé cet album Rio?
Parce qu'en fait, je l'ai écrit en majorité là-bas. L'album Rio.
Voilà,
tu vois, donc voilà. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ça contribue, il faut le dire, il faut être un peu con quand même, mais ça contribue au fait que cet album n'a pas été compris, ce qui est vraiment que j'avais une coiffe d'un carnaval sur la tronche. Et je pense que 90% des gens ont pensé que c'était un album de reprise de musique brésilienne. Bon. Et on a évité l'écueil pour l'album à venir, voilà, je le dis.
Les gens ne s'en servent pas.
Ça jette un
vraiment.
Froid quand même.
Oui.
Alors, on t'écoute.
Ceci, par exemple.
Putain, je l'ai, attends.
Ça chatouille, hein, ça chatouille. Ça swingue pas trop.
Je pourrais pas te dire ce que c'est.
Mais si. Non, je fais n'importe quoi. Putain, je l'ai.
Ouais, pareil.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas?
Christophe Martinez, ton attaché de presse, a peut-être trouvé. Ouais, il a trouvé.
Ah voilà, Mika, bien sûr.
Oui, joli coup, ceci.
Elle me dit, elle s'en contente. J'ai fait n'importe quoi.
C'est pas le même extrait, le même passage, mais c'est ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Ça, c'est. Les garçons, vous me feriez un accord pour que je fasse celui-là?
Non.
Faites-moi un accord à l'amiable. De,
quoi
je sais pas, c'est ça doit être un sol. Je sais pas ce que tu veux, tu vois.
Oh là là, l'autre qui est en train de crever en direct. Tout va bien.
Ceci dit, si vous trouvez peut-être l'harmonie.
Vas-y, Christophe, mais c'est la même chanson, là?
Non, c'est une autre chanson. Je fais que ça.
Qu'est-ce que tu dis là?
Allez, je refais.
Ah, ok.
Ouais.
Ah, viens,
je t'emmène.
Ça. Oh.
Je t'emmène.
Attends, c'était compliqué là.
Oui, c'était compliqué. Moi, je l'ai pas bien faite comme il fallait.
En faisant, tu t'es dit merde, c'est chaud de le retrouver celui-là.
Et tu sais quoi, je me rappelais pas de la mélodie.
Ah, tu vois.
Ouais, c'est moi qui ai merdé.
Parce qu'on t'a senti perdu là.
Oui, je me rappelais pas de la mélodie. Personne n'a trouvé en fait.
Mais si, on a dit viens, je t'emmène.
Ah oui, c'est toi.
On a trouvé.
C'est
trop fort.
En tout cas, toujours la réflexion qu'on a quand on fait ce petit jeu, c'est que voilà, les chansons sont identifiées, quelquefois à partir d'un gimmick super fort, puissant, qui prend le pas sur tout le reste, sur la mélodie, sur le texte, etc. Quelquefois d'un mot, quelquefois de... C'est toujours mystérieux, ça, comme ça fonctionne, en fait. Et c'est intéressant, parce que c'est la propre définition de la chanson. C'est que ça garde un mystère énorme.
Il y a même des chansons, le gimmick est plus fort que la chanson.
Exactement.
Personne ne connaît la ligne de voix ou le texte, ils connaissent que ça, quoi.
Exactement.
C'est fou, mais c'est super quand même qu'on se fasse cueillir par, des fois, des choses tellement étranges. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, comme les maisons de disques, les médias, etc., dansent une danse tous un peu la même, etc., on a moins d'accidents que dans les années 90-80. Il y avait des accidents incroyables. Et d'ailleurs, c'est à se demander si dans les années 80, il n'y avait pas presque que des accidents. C'est-à-dire des gens qui étaient...
Les Wonders, quoi.
Oui, c'est-à-dire pas forcément des gens qui font qu'un disque, enfin qu'un tube, mais t'avais des personnages comme Rita Mitsuko ou...
C'était beaucoup plus haut en couleur, en fait, c'était...
T'avais des trucs qui étaient vraiment uniques, tu pouvais pas comparer. Ouais. C'était difficile de comparer Balavoine à Lavilliers, tu vois ce que je veux dire. C'était univers hyper forts à chaque fois.
Oui, je suis d'accord. Guillaume, c'est facile de passer de ce rôle de sideman, c'est-à-dire d'accompagnateur de plein d'artistes, la liste est longue, hein, ce qui te... Tu as collaboré avec Richard Gauthier, Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Amel Bent, Safo Vianney et d'autres, Michel Fugain, Grand Corps Malade et tout ça.
Ouais, longtemps avec Fugain.
Il y a eu longtemps avec Fugain, qu'on le salue, Michel Fugain.
Mais Michel, carrément, il m'a fait faire un duo avec lui sur l'album et en plus sur scène, il me faisait chanter un morceau à moi.
Oui, je me souviens.
Sur lequel il était derrière, il faisait les chœurs et tout.
Quel enfoiré.
Non, mais quel accueil. Quel accueil, j'ai jamais vu ça, quoi. Ouais, Michel, ouais. Big up to you, my friend.
Ouais, et Sanda également, et toute l'équipe.
J'allais dire Sanda, les démons.
Sanda qui vous embrasse, qui est l'épouse de Michel Fugain, qui fête ses 80 ans, je crois, prochainement.
Cette année, ouais, Michel, il fête 80 balais.
Le 12 mai à Bobino, il sera.
Recordman du monde de chant à l'âge qu'il a. Ouais, Recordman du monde. Comment il chante, Michel, aujourd'hui. Comment il est précis.
On est d'accord. C'est un répertoire qui n'est pas à sa place, peut-être d'ailleurs. Fugain, il est peut-être pas assez, comment dirais-je, dans les médias, reconnu. On est d'accord ?
Si, on est d'accord.
Je pense qu'il est reconnu. Ouais. Maintenant, c'est Michel, avec tout ce que ça implique et tout, mais je pense qu'il est reconnu à sa juste valeur. Moi, j'ai plus de frustration avec Gauthier qui est typique des années 80, et à l'heure où les années 80 viennent beaucoup sur les radios aujourd'hui, t'entends aussi bien Desireless que Jean-Pierre Madère que Partenaire Particulier,
c'est vrai.
On entend très peu Gauthier, et ça m'étonne, parce qu'en fait, il a une signature 80, et puis il écrit des chansons, mais tellement parfaitement écrites et parfaitement arrangées.
On entend les influences communes dans tes harmonies, c'est très Fugain par moment, en fait. Il y a quelque chose comme ça, vous avez les mêmes sources d'inspiration.
Et
comment on fait alors pour passer ? On passe facilement de ce statut de sideman à une carrière solo où il faut assumer le truc et passer devant devant la scène, en fait.
Moi, j'ai dû faire un choix récemment, en fait, parce que sinon, j'ai jamais fait le choix. J'ai toujours accompagné d'autres gens tout en chantant mes chansons. Ce qui est cool, c'est que quand t'accompagnes d'autres gens, en fait, le fait de faire la messe... Comme disait Romy tout à l'heure, le fait de moi-même avoir des moments de faire la messe où c'est toi le curé, c'est toi qui fais la messe, ça me rend un meilleur accompagnateur. Parce que j'ai pas de frustration, quand je viens accompagner Richard Gauthier ou Michel Fugain, je viens faire du Gauthier ou du Fugain. Je n'ai aucune envie d'y placer ma personnalité.
Ouais.
Donc, mais parce que j'assouvis ça de mon côté, et je pense que c'est bien.
En 2009, je crois, c'est ou 2011, il y a le deuxième album de Christophe Willem qui s'appelle Caféine, il y a Berlin dedans.
Je crois que c'est 2009, non ?
2009 ?
Je crois. Je sais pas, j'ai un doute. Non, c'est 2009, parce que 2007, c'était le premier, je crois.
Ouais, je me souviens bien.
2009.
Et je crois que c'est 2009, je crois.
Disque de platine. 300 000 ventes.
C'était pas mal.
Là, les gens avaient compris, là.
C'est vrai. C'était qui, Réal ?
Il y avait plein de réals différents dans cet album, en fait. Il y avait beaucoup d'anglais.
Ouais.
Et ça, c'était Yves Jaget qui avait fait le mix pour que ça soit vraiment cohérent, en fait. Ouais.
Ouais. Et il y avait ensuite Prismophonique, disque de platine, celui-là. Ça monte. Je ne sens que leur absence.
Envie de m'enfuir.
Saint-Wilhelm. Je disais, ça monte dans c'est stable, c'est toujours disque de platine en fait. Donc tu.
Oh, attends, t'as pas arrivé jusqu'au bout de la liste. Hein, parce que... À un moment, ça attends, est disque de carton au bout d'un moment. Attention à la liste.
Disque de carton. Il y avait en 2014 ou 2016, j'ai deux dates, je sais pas, paraît-il.
Mais quand on
l'album, hein, le chagrin, le titre.
Non, mais ça, j'ai vécu la misère. Parce que c'était le premier single de l'album, celui-là. J'adorais. C'est une fille qui s'appelait Frédéric Achetal qui avait fait le titre. Et c'était Carla Bruni qui avait fait le texte. Et en fait, moi, j'étais à fond sur ce single et tout. Et là, on prépare un clip. Et alors, vous vous rappelez de Pas de pitié pour les croissants ?
Oui.
Tu vois, avec les effets spéciaux à chier.
Ouais.
Bah, le clip ressemblait à ça. On aurait dit que c'était. Tu faisais une coloscopie en direct. Tu vois, le clip. On était sur un truc très aérien, ça, très beau. Et là, on me voit rentrer glamour. Dans un tube et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Donc, il n'y a pas eu de clip. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de clip, donc il n'y a pas eu de vente. Donc,
le clip a été tourné.
Comment t'expliquer comment tuer un album ? Si, j'ai les images de ce clip. Ah, si, un jour, je les sortirai parce que ça vaut. Non, mais je pense que c'est balèze les images.
Mais comment ?
C'est monté, le clip, il a été monté.
Guillaume Farley
est
allé jusqu'au bout.
Si, si, il a été monté. Je sais même pas si on peut appeler ça monté en fait, toi, ça a été genre, assemblé, je sais pas ce qu'on peut dire.
Mais comment ça se passe? Parce que par exemple, quand on décide un clip, t'as une équipe qui te propose un scénario.
Oui, toi, oui,
t'es
oui,
très
oui.
actif toi dans le ça dépend, la proposition.
En fait, tu fais ce qu'on appelle, oui, un genre d'appel d'offres à plusieurs boîtes de prod que tu trouves intéressantes, qui ont des bandes démos et tu vois un peu le travail qu'ils font. Et là, il y avait une boîte de prod qui semblait très très bien. Ils nous avaient montré carrément un essai. Il y avait des vrais effets spéciaux. Ils nous avaient montré un essai. Bah, l'essai n'a jamais été
honoré.
Voilà, tu vois, j'ai envie de te dire, c'était qu'un essai. Voilà.
La coloscopie, ça pourrait être le titre d'un album.
Non, mais je vous jure qu'un jour,
un
je
album
balancerai
d'humour. Si tu fais pas un album d'humour en t'appelant coloscopie, vaut mieux pas le faire.
Non, mais en plus, sur un titre comme celui-là, enfin, c'était pas possible d'avoir un truc d'humour, tu vois, sur un titre
ah, oui,
comme
oui,
ça.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, on parlait de la chanson humoristique, si on peut dire, qui quelquefois est compatible difficilement avec une production musicale très élaborée. Enfin, on a l'habitude dans les chansons qui font rire d'avoir des gens qui négligent un peu la musique en fait, oui. Font des choses un peu à la va-vite quoi.
Mais c'est bien, c'est pour l'auditeur, c'est-à-dire qu'il y a des cadres musicaux où tu peux pas mettre une vanne. Imagine le cadre de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman est le roi du premier degré. Si tu mets une vanne dans une chanson,
ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Totalement, totalement.
Je réfléchis, mais c'est pas faux.
Si tu mets une vanne dans un texte de Goldman, personne ne l'entend, même si elle est écrite, même si elle est dedans. On ne l'entend pas, le cadre nous empêche de l'entendre.
Je suis en train d'imaginer une vanne.
Oui, ça change. Tu vois, je réfléchis avec mon univers musical de merde, mais je réfléchis. Non, mais parce que j'ai des références cheloues. Mais tu sais, tu peux faire des chansons bien populaires avec des trucs qui bastonnent en boîte et tout. Tu sais, l'autre, là, c'est pour la petite bourgeoisie que je parle plus anglais. Ce truc-là, on l'a entendu pendant longtemps, tu vois. Bah, derrière, c'était quand même avec un très, très gros son, format radio, boîte et tout, tu vois. Donc, il y en a quand même des trucs comme ça.
On parlait d'Oldelaf aussi, qui fait des jolies productions.
C'est vrai, tu vois.
Mais ça, c'est pas de l'humour, c'est du décalage.
Oui, c'est du décalage.
C'est du décalage, c'est pas de l'humour au sens fan.
Oui, on est d'accord.
C'est pas un truc qui te fait rire. Par contre, il est possible que ça puisse te faire sourire et que l'univers te vient.
Oui.
Et ça, c'est du cynisme un peu gainsbourgien. Tu parlais de Gainsbourg ?
Oui.
Gainsbourg est le roi du cynisme, ouais.
Ça, voilà une autre influence d'ailleurs dans ton album. Il y a une chanson, je ne sais plus lequel titre.
C'est Pour toujours un forever.
C'est Pour toujours un forever qui fait très très directement référence à Gainsbourg.
Ouais, mais... Évidemment.
Regarde. Ah non, mais nous, on est comme ça, on est très réactifs.
C'est totalement réactif.
T'as vu un peu, c'est fou. Hein, on le doit à Maxime qui est à la réalisation.
Pour toujours un forever est une idée de mon ami Rock Avet avec qui j'écris mes chansons. Mon cher Rock Avet, que je salue. Et lui, un jour, bon, on a écrit beaucoup de chansons ensemble, et un jour, il dit « Je serai pour toujours un faux rêveur ». Oh, je lui dis « Oh, j'adore, arrête-toi, assieds-toi, c'est parti, c'est maintenant ». Alors, on écrit plein de phrases comme « J'ai hâte de mettre un chapeau », ou alors « Je m'en fiche d'être un poisson », ou…
Pas mal, j'ai hâte de mettre un chapeau.
Et toutes les phrases de cette chanson sont écrites de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une traduction de l'anglais, mais avec que des mots français, notamment « C'est pas jouir, mais c'est tout comme », ou…
Oh, mais merde, c'est…
Ou,
c'est génial,
ou,
j'adore.
Une qui est pas dedans, dedans. Une qui est pas dedans et qui dit « Des lendemains tout moroses ».
Ah oui.
Des lendemains tout moroses, c'est magnifique. Donc c'est le principe de Pour toujours un forever.
Ouais, pas mal.
Et toute la chanson est écrite comme ça.
Des lendemains tout moroses, joli coup.
C'est classe.
Mais alors pourquoi cette citation dans le son de Gainsbourg à ce point? Parce que là on a le funk, la guitare funk qui est Gainsbourg, la basse synthétique est Gainsbourg, on a
total.
Tout Gainsbourg.
Ouais, mais c'est Gainsbourg qui m'a copié, il me doit tout. Non mais je rigole, c'est juste qu'on avait cette rythmique funky, moi en fait j'arrivais avec cette compo, la guitare qui faisait vraiment une funkiness totale.
Ouais.
Et ensuite on est parti là-dessus. Le problème, c'est que pour honorer ce texte qui ne rime pas,
le fait de parler le couplet devenait une évidence. Donc ouais. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans un truc un peu gainsbourgien, en mode You're Under the Rest, à cette époque-là, quoi. Mais bon, je suis pas contre.
Et il y a en 2018 ce titre Christophe Willem, Madame, sur l'album Rio.
Ah oui.
Madame M, comme elle respire, Madame pleure pour nous laisser son sourire.
Ah oui, c'était pour Latifah et Benzaten.
Exactement. Dont le fils a été tragiquement assassiné par Mohamed Merah.
Et en fait, j'avais vu, du fait, des chansons qui naissent comme ça, d'un truc. J'avais vu un reportage à l'époque, c'était sur France Télé, où elle expliquait un peu tout son combat, qu'elle elle va dans des collèges, dans des prisons, essayer justement de sensibiliser les gens, et ça m'avait bouleversé. Et donc du coup, sur Twitter, comme quoi sur Twitter, il arrive des trucs des fois, je lui avais envoyé un message privé, réellement, lui disant que j'avais venu de voir un reportage sur elle et que j'aimerais vraiment la rencontrer. Et genre, un mois après, on s'est vus et la chanson, elle a été écrite avec Igitt.
Ouais.
Et on l'a écrite en une après-midi. Enfin, c'était évident. Il était venu avec moi à ce rendez-vous. On était tellement scotchés de voir cette femme qui continue son combat que cette chanson, c'était une évidence.
Igitt qui a écrit notamment le titre phare de Barbara Pravi pour défendre l'Eurovision.
Oui.
Ça s'appelait Voilà, hein, rappelez, Igitt, voilà. Merci d'être passés tous les trois. C'était un joli moment
merci,
de
bon.
Partage comme ça, apéritif, comme on aime bien ici sur Sud Radio. Demain, nous serons avec Skip the Use et jeudi avec Imagination Lee John en particulier. Merci Christophe Willem.
Merci beaucoup.
Le single s'appelle P.S. J'y tiens.
P.S. On va le dire comme ça.
Je t'aime. Et c'est le premier extrait de ton sixième album à paraître cette année. On n'a pas parlé de ton ta mission de coach à The Voice Belgique.
Ah oui,
ça va être la
fini.
Première fois. Ah non, c'était
là,
la première fois.
Ça vient de se finir, ouais. Mais c'était très très cool.
Tu as aimé?
Ah ouais, vraiment.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé. Et j'avais des talents, mais hallucinants. Mais vraiment, c'était.
Ils sont forts les Belges en musique.
C'est toi qui as gagné? C'est ton équipe qui a gagné?
Non, malheureusement, non. Mais écoute.
Ouais. C'est le plaisir que tu as pris qui est d'abord la priorité. Merci d'être passé, mon Christophe Willem.
Merci beaucoup.
À tout bientôt. Il y avait également Guillaume Farley. Son troisième album s'appelle Blindé. Il y a aussi le clip Pour Toujours un Forever sur
qui vient de sortir.
Voilà, sur ce nouveau single. On a été ravis de t'accueillir, mon
Guillaume. Merci, vraiment,
moi
aussi.
Notre Romichel Minsky qui est là régulièrement et on s'en réjouit. C'est super. Tu changes rien. Ça a été très bon. Des fois, c'est très, très mauvais.
Vous êtes très mauvais, mais là, vous étiez pas
très, très bon. Hein. Ça a été très bon.
Allez, merci.
Merci, mon Romy. Super, merci d'être passé. Dans quelques secondes, Jacques Pessis, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonne soirée.
Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem?